Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir et bienvenue sur J'irai cracher sur vos ondes, l'autre émission littéraire de Scilab qui te donne à entendre une littérature aussi vivante que vibrante. Je suis Cess et je suis accompagnée aujourd'hui d'Ingrid, salut Ingrid,
salut,
ainsi que de Clara à la technique.
Salut.
C'est la toute dernière fois de cette saison que vous m'entendrez le dire, chers amis, mais en octobre dernier, je suis allée à Quai des Bulles et je me suis entretenue avec des gens passionnants. Ce n'est que la quatrième fois que je le dis dans cette émission cette année. En l'occurrence, j'ai réalisé un entretien croisé avec deux auteuristes BD qui ne sont nul autre que Frix et Laurier the Fox. Laurier, son nom, est fortement associé au projet Reconnaîtrance, un projet mené depuis au moins 2017, et si j'en crois son Tumblr en tout cas, et qui existe en format papier depuis 2021 aux éditions Lapin. En 2022, il a aussi coécrit et auto-édité le livret pédagogique J'ai un, une amie trans et ou non-binaire. Il est l'auteur de la postface de l'ouvrage Le Genre, cet obscur objet du désordre, par Anne-Charlotte Husson et Thomas Mathieu aux éditions Casterman BD. Citons enfin son travail d'illustrateur pour Je m'appelle Julie, écrit par Caroline Fournier et publié aux éditions On ne compte pas pour du beurre, j'adore ce nom personnellement, ou encore son travail pour les affiches réalisées pour les campagnes du planning familial. On peut notamment citer cette affiche où il a représenté du coup un homme enceint recevant des conseils du planning familial qui a fait fortement réagir. En ce qui concerne Frix, elle produit depuis assez longtemps illustrations, histoires et bandes dessinées, tout d'abord dans sa chambre, puis assez vite sur Internet. Elle a édité plusieurs ouvrages en auto-édition, Punk et Je ne serai pas ta muse pour ne citer que cela, puis a ensuite été publiée à deux reprises de chez Lapin, pour un premier titre autobiographique en 2021, Autopsie des échos dans ma tête, où elle y raconte sa folie sans se limiter à une perspective intimiste. C'est ce qui va lui permettre de questionner les dimensions médicales, sociales et politiques de la folie. Puis vient un second titre, fictionnel cette fois, en 2023, Sous la ceinture. On y suit Diane dans sa quête de vengeance qui, sans trop en dévoiler, va dériver vers une quête de soi. En réunissant ces deux artistes, ou plutôt en tombant sur eux suite à leur covoiturage pour venir dédicacer sur le même stand, l'idée m'est venue de discuter avec elle de la notion de violence et de la façon dont elle rencontre, traverse et interpole leurs œuvres. Tout au long de cette émission, on va s'appuyer sur des extraits de cet entretien pour discuter entre nous des sujets suivants. La représentation et la mise en scène de la violence, le refus de s'excuser pour sa colère et sa violence, la violence que rencontrent les auteuristes minorisés dans le monde professionnel de l'édition et plus spécifiquement de la BD. Et concernant ce dernier point, on aura même l'occasion de revenir sur des sujets qui auront fait l'actualité. Tout le monde est prêt et prête ? Alors commençons sans plus attendre avec le premier extrait.
Je peux parler de la violence dans la réception des témoignages. Je dois faire face à la violence que subissent mes adelphes, mes témoignants, quand ils m'envoient leurs témoignages, les violences, que ce soit des violences psychologiques, que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences administratives, des violences sociales, etc. Globalement, en fait, quand j'accueille ce témoignage, j'essaye à la fois de l'intégrer, on va dire, au niveau de mes tripes, mais j'essaye de me détacher pour pas trop mal le vivre. Mais moi, ma manière de faire pour Reconnaîtrance, pour être au plus près de ce qu'on subit, mes adelphes, c'est de vraiment le prendre pour moi et de le ressentir pour moi et de voir comment moi je vais ensuite interpréter visuellement cette violence si moi je l'avais vécue. C'est tout un travail d'équilibriste entre des moments de pause où je me détache complètement de ce que je fais pour réfléchir à la mise en page, réfléchir à des manières beaucoup plus techniques, spécifiques, etc. Et quand je travaille vraiment ensuite le storyboard et que je travaille avec mon témoignant ou ma témoignante, c'est le moment-là où je me mets vraiment à 100% en empathie en fait, avec la personne pour être le plus fidèle possible et retranscrire le plus fidèlement possible cette violence. Et au niveau du travail graphique, en fait, ça va se traduire par énormément de traits comme des hachures rouges qui ressortent et qui vont entourer, écraser le personnage. Plus il y a de hachures et plus c'est grand autour du personnage, plus c'est violent.
Et pour rester sur le côté graphique, tu parlais de préserver la violence pour toi, mais tu travailles aussi à préserver la violence du lecteur. Je pense à la gamme colorimétrique que tu utilises. On sait tout de suite, selon la couleur de la page, à quoi on va s'exposer quand on ouvre ton travail.
Je me suis basée sur le projet Crocodile, qui parlait du harcèlement de rue, des violences sexistes et sexuelles, et qui avait un code couleur très précis. Les crocodiles étant donc des agresseurs et qui étaient dessinés en crocodile avec un vert fluo très pétant. Et j'ai voulu reprendre, pareil pour du témoignage, un code couleur très précis, donc avec un bleu-gris qui montrait tout ce qui était oppression. Et en fait, c'est au fur et à mesure, quand j'ai monté la BD en format papier, que à ce moment-là, ma directrice de collection m'a aidée et m'a dit, en fait, il faudrait que tu rajoutes une couleur pour le positif. Et j'ai trouvé le doré, c'est parce que ce sont des couleurs complémentaires, ça allait très bien. Et donc, c'est grâce à elle qu'on peut faire la différence entre le positif et les témoignages positifs et témoignages négatifs. Et de toute façon, c'est toujours ce que je dis aux personnes qui achètent le livre, c'est ne le lisez pas d'un coup. Ce sont des petits témoignages, des histoires. Et si vous n'êtes pas en état de lire des choses violentes, vous pouvez effectivement l'ouvrir, faire passer les pages très vite. Dès que vous voyez du doré, vous pouvez lire, ça veut dire que c'est positif. Et en plus de ça, on a mis des trigger warnings au début.
En fait, moi, je suis pas dans une démarche similaire à celle de Laurier dans le ménagement du lecteur, je pense. Je pense qu'on a une approche qui peut être similaire certaines fois sur notre utilisation des couleurs et de leur complémentarité. Mais je pense que dans cet aspect-là du traitement de la violence, moi, j'ai plus en tête de mettre au début du livre un gros trigger warning, un gros avertissement de contenu pour prévenir que le livre ne te ménagera pas et qu'il faut que tu sois dans des bonnes conditions pour le lire. Après, je pense que dans mes livres, il y a cette approche de la violence. Enfin, moi, c'est un retour que j'ai souvent eu, que ce soit sur Autopsie des échos dans ma tête, qui est très biographique, ou que ce soit sur Sous la ceinture, qui est une fiction. Enfin, c'est un retour que j'ai souvent eu, que j'ai un traitement graphique qui n'épargne pas le lecteur. Donc, je préfère prévenir en début de livre pour fluidifier la lecture après, que voilà, c'est potentiellement des livres qui vont te mettre une baffe dans la gueule, mais dans ma gestion de la violence, il y a toujours à la fin un rebond vers la surface qui est salvateur.
Alors Clara, Ingrid, je ne sais pas si après l'écoute de cet extrait, il y a déjà des questionnements qui vous viennent, mais en tout cas, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés vis-à-vis du coup des codes graphiques qu'on peut mettre en place pour du coup donner un ton, comment on met en scène la violence pour aussi avertir le lectorat ou non. Est-ce que c'est un sujet que vous voulez approfondir ou vous voulez partir vers une autre direction ?
Alors justement, pendant qu'on écoutait l'extrait, donc je relisais mon exemplaire de Sous la ceinture de Frixe. Quand Laurier parlait des couleurs, donc si j'ai bien compris, donc Laurier préfère mettre des couleurs différentes pour ce qui va être négatif, positif dans les témoignages, pour qu'il y ait un avertissement.
Alors c'était pas un choix en général, mais il se trouve que dans Reconnaîtrance, oui, c'est le code qui est mis en place pour distinguer du coup les moments positifs et des négatifs.
Oui, c'est ça, dans cet ouvrage en particulier. Et ça me faisait écho à l'ouvrage du coup Sous la ceinture de Frixe, qui est tout en rouge et rose, rouge et bleu. Avec cette violence qui est tout au long de l'ouvrage et effectivement le fait qu'on soit prévenu en amont de ce qui va se passer. Je trouve ça assez intéressant pardon, comme point de vue, comme façon de voir différente de est-ce qu'on ménage ou pas le lecteur. Je trouve que c'est une question qui se pose et qui est très intéressante à creuser, quoi.
Oui, tout à fait. Il y a une vraie question, en fait, on va dire un peu du consentement qui peut... Enfin, en tout cas, on peut le lire comme ça, à quoi le lecteur va consentir de s'exposer ou non, parce que c'est pas qu'on veut bannir la violence et plein d'émotions négatives de ces expériences de lecture ou autres expériences vis-à-vis des œuvres, mais c'est qu'on devrait pouvoir choisir dans quoi on met les pieds, si on peut parler ainsi. Je sais que c'est un débat qui revient souvent sur les trigger warnings dans les communautés culturelles, j'ai pas envie d'être spoilée en fait, j'ai pas envie de savoir qui va se passer telle ou telle scène, parce que je veux pouvoir découvrir l'œuvre vraiment en étant surpris de A à Z. Donc il y a des gens qui sont agacés par la présence des trigger warnings qui, selon eux, leur ôtent une partie de l'expérience de lecture. Et il y avait Charlie Genemore, qu'on a interviewé il n'y a pas si longtemps, qui a témoigné, il se trouve, la semaine même, on enregistre cette émission sur ce point de vue. Donc il partageait des stories sur, du coup, des boys love, où il mettait en avant certaines représentations maladroites de relations, où en fait... on présentait des scènes de violence sexuelle sans dire que c'en était. Donc typiquement, un bisou sur une personne qui est endormie, ce genre de choses qui est mis en scène. mais qui n'est pas dénoncé, en fait, qui est juste représenté comme un truc sexy et mignon. « Oh, je te fais un bisou sur la bouche pendant que tu dors. » Non, en fait, non, c'est une agression que la personne, la personne qui dort n'est pas en état de consentir à ce que tu fais. Et donc, ce qu'il expliquait, c'est qu'il n'était pas compte que ça soit mis en scène, mais que voilà, fallait mettre des termes sur ces choses-là. Et du coup, ça l'a emmené à discuter un petit peu des trigger warnings sur voilà, comment on peut faire pour donner la possibilité aux personnes de lire les trigger warnings ou non. Donc, il proposait des choses par rapport aux plateformes sur lesquelles il lisait les œuvres en question. Mais c'est vrai que du coup, c'est un... Le point qui mettait vraiment en avant, c'était que voilà, c'était pas la question de voici la méthode à suivre pour être un bon auteur, une bonne autrice. C'est vraiment inviter les personnes qui écrivent à se porter responsables vis-à-vis de ce à quoi ils exposent les personnes qui vont les lire par la suite, quoi.
Moi, ça me fait penser au cinéma, mais c'est autre chose du coup. Mais c'est juste que, enfin, il y avait le festival Travelling la semaine dernière et je suis allée voir Millennium 1. De David Fincher et en fait je me suis dit ah cool, enfin un film un peu thriller policier, ça fait longtemps et puis le personnage féminin a l'air badass, allons-y quoi. Et puis je lis un peu trop des trucs mignons en ce moment, c'est bien de se remettre un peu dans la
vie d'adulte,
voilà, c'est ça. Et en fait bah non, ça l'a pas fait du tout. En fait au bout d'une heure il y a une scène de viol qui est vraiment atroce, une scène de torture et de viol, et bah du coup j'ai pas pu rester quoi, enfin je suis partie du film après une heure et je suis partie du film en passant un peu sur les jambes des autres, en étant énervée, en m'excusant pas du tout, enfin en fait j'étais énervée et après je m'en suis voulu quoi, j'ai culpabilisé en me disant mais mince quand même, enfin je m'en suis voulu, je sais pas, mais j'étais un peu entre plein de sentiments et j'avais l'impression d'avoir perdu un peu quoi, j'avais l'impression que j'avais perdu la partie de spectateur qui est devant une œuvre et puis qui doit rester et après qui se fera son avis, mais qui doit, enfin bon après ça c'est un, enfin ça se débat quoi, mais en tout cas ouais ça m'a, et je crois que ça m'a un peu fait un truc enfin, en fait, corporellement, je pouvais pas rester et ça m'a fait un truc aussi de je crois que je peux plus voir de scènes de viol, quoi. C'est plus possible, même mis en scène. Je comprends pas comment. En fait, on peut le
montrer à l'écran. On peut le
montrer à l'écran. Bah après, du coup, on est dans une émission littéraire et je parle de cinéma, mais
non, mais
après
ça,
dans les
ça se
BD
rejoint,
ou quoi.
En plus, la BD, pour le coup, ça fait beaucoup de parallèles avec le cinéma, pour le coup. Et dans Sous la ceinture, ouais, il est question de viol, mais pour autant, on n'est pas exposé à des scènes de viol. On sait ce qui s'est passé, mais ça va pas nous être étalé.
Bah là,
même la vue, quoi. Et ça change beaucoup de choses, quoi.
Bah oui, parce que dans le cinéma, tu peux pas t'empêcher de te dire que le réel, il a pris, enfin, du temps pour réaliser cette scène, pour faire jouer les acteurs, enfin pour remettre en cette scène. Il aurait pu choisir de le montrer autrement, de le suggérer, en fait.
Les
et pourquoi
ellipses,
passer...
c'est très bien aussi, ça marche.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et là, quand même, quoi. Ouais, c'est. Du coup, c'était un film de 2011 ou 2012. Du coup, j'aurais dû me douter quand même que ça allait pas bien se passer.
Non, mais de toute façon, comment dire, c'est pas parce qu'un truc est ancien qu'on est censé le connaître, en fait. Je veux dire, encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui se font avoir par Le Tombeau des Lucioles, qui est un film d'animation. Donc, combien de familles se sont dit « Allez, c'est comme un petit Ghibli, ça va être trop marrant, mon voisin Totoro, yay !» Parce qu'en plus, je sais même plus si c'est le studio Ghibli, mais en tout cas, c'est Takahata qui est derrière ce film. Et Le Tombeau des Lucioles, c'est l'histoire de deux gamins orphelins en pleine guerre du Japon, quoi. Et c'est un film juste horrible.
Oui, il m'a bien trauma
c'est
à
ça.
10 ans.
Et enfin, du coup, c'est pas du tout un sujet unique, c'est pas du tout des occurrences rares, en fait, que de se retrouver exposé à des images ou à des récits où t'es en mode « Ah, je crois que j'ai pas signé pour ça, en fait.
» Ouais, ouais, c'est ça. Bah, et puis surtout, c'est toujours le truc aussi des corps féminins, ou des corps, pas hommes cis, quoi, qui sont toujours, souvent mis à poil, violentés. Enfin, c'est toujours ce même. Enfin, ça a créé vraiment une saturation, quoi, que je peux plus, quoi. Enfin, puis il y a tout le truc de l'identification aussi, enfin, qui est encore plus forte au cinéma. Du coup, c'est vraiment compliqué. Et en même temps. Oui, j'ai pas pu quand même m'empêcher de me dire, ah, je suis une chochotte, tu vois, c'est quand même une question compliquée, machin. Mais ouais.
Oui, mais déjà, si t'avais été prévenue, tu l'aurais pas abordé de la même façon.
Ouais,
t'aurais
ouais,
pu
ouais.
mettre en place des choses pour te dire, ok, je sais, quand il y a telle scène, je mets mon casque anti-bruit, je ferme les yeux.
On nous enfin, a prévenu, voilà, la personne qui présentait la séance nous a prévenu. Mais en fait, je me suis dit quand même, tant que t'es pas confrontée, je sais pas, je me suis dit, oh, allez, bon, d'accord.
on y va, quoi. Et puis, en fait,
qui t'était prévenu au moment de la diffusion. Bon, ça dépend comment c'est fait. Mais peut-être que c'est un moment où tu te dis, je me suis déjà déplacée, j'ai déjà payé ma place. C'est peut-être plus compliqué de te mettre en retrait à ce moment-là, quoi.
Mm-mm. Non, là, c'était vraiment... c'était bien de me mettre... Enfin, c'était la seule chose que je pouvais faire de partir oui, de la salle.
Mais je veux dire... Je me pose en tant que la question en tant que personne qui organise des événements, etc. Comment tu peux mettre en place des choses.
Oui, carrément.
Parce que
oui,
c'est, peut-être que le carrément. Moment sur scène, oui. Si c'est le seul dispositif de prévention que tu as, peut-être c'est un peu léger, quoi.
Oui, effectivement, ouais. Surtout que j'étais tout à gauche de la salle, donc je pouvais pas. Enfin, fallait que je passe. Ouais, je te dis sur les. Enfin, au-dessus des gens, etc. C'était bien, bien gênant. Mais j'ai quand même regardé la fin hier, du coup.
Chez toi, tranquille, dans un espace maîtrisé et cocooning.
C'est ça, mais et en fait, il y a d'autres formes de violence, et du coup, je me dis, mais c'est quoi le délire, quoi, de ces personnes qui aiment écrire
des scènes de torture. La saga originale de Millennium est très centrée sur les violences sexistes faites aux femmes et le traite de façon très empouvoirante, mais je pense que l'expérience littéraire est très éloignée de l'expérience cinématographique. Enfin, je veux dire, David Fincher. Bon, voilà, le peu d'œuvres que j'ai regardé, c'est plus le point de vue des mecs cis blancs, quoi. Donc, c'est pas forcément... Après, je t'avoue, David Fincher, j'ai vu son adaptation, j'ai fait « Non, personne ne pourra faire mieux que Noémie Rapace. Je ne regarderai pas. » Hashtag dédain, hashtag mépris.
C'est l'autre, c'est la version
suédoise. Il y a une première adaptation suédoise,
ah,
ouais.
Ah oui, d'accord.
Okay. Qui est, on va dire, qualité téléfilm plus, mais...
J'ai trouvé que c'était plutôt qualité téléfilm aussi, Fincher. Hein. Genre la fin, par exemple, mais c'est pas une fin, quoi. C'est...
Bah, en plus, il a pas été financé pour la suite. Mais en tout cas, trouvait-il que je suis fidèle à la version suédoise, qui n'est pas un grand film, mais qui est super. Et il y a Noémie Rapace.
Et il y a moins de scènes horribles de viol qui durent...
Bah, en fait, je me rappelle surtout des scènes où elle se venge, et c'est cool.
Ok. Bon, bah on va peut-être revenir au bouquin, du coup.
Bah, on peut même revenir au choix musical de Laurier. C'est une, la musique ce soir a été sélectionnée par Laurier. Bon, j'ai imposé une musique parce que juste ça s'imposait. Voilà, j'y peux rien. Donc, on va tout de suite écouter Cavale Cavale de Théa.
Théa, ça me dit un truc. Genre tout Panama, notre rouge. J'ai pris des stats, ils prennent la mouche. Toi et moi, on cramera toute la ville. Toute la nuit, on s'en fout du ciel. Que des chats morts, des sorcières et des anges hardcore. On traîne au fond des caves et dans tes angles morts. Ce qu'on veut voir écraser, mais qui danse encore. Mal dans son corps, mais on danse encore. Mon cœur est mort, cassé dans le caniveau. Quand poulet d'or a des goûts à l'écro. La nuit, on sort comme s'il n'y a plus rien à perdre. Tout était fermé, on a enfoncé la porte arrière. C'est la trave et le ped à DT, on fait la paire. Des cassettes, des concerts, des cases, on sait le faire. On se taille, on fout la merde en passant ou dans ton village. On cavale, on est bête, on accélère dans les virages. T'as pas la vitesse, t'as loupé le train, n'oublie pas. Tout est remis, tu l'appelles, donnez pas l'heure, maintenant ils cry. Tout est remis, c'est des posers, ils me font pas peur, ils sont fans de moi. Avec ma zone, tabasse la scène comme si on l'aimait pas. J'ai compté les cadavres, les pédos, compteurs, zéro CSA. Bâtard, voulait me tuer, il est reparti en sale état. Il me faut un château pour ma team comme si je suis cosplay cric. Il me faut un mec en parisien, il me faut un cosplay clit. Il me faut de la drogue dans le jean, il me faut des clubs genre vite. Il me faut une putain de bonne raison de pas te mettre un cut dans le bide. Ça va encore. Tu nous rattrapes quand on est mort.
C'était Cavale Cavale par Théa. Vous écoutez J'ai craché sur vos ondes sur Syllab. Et aujourd'hui, on parle de la violence à travers l'entretien que j'ai pu avoir avec Frix et Laurier the Fox. Tout de suite, on va les entendre parler un petit peu de leur rapport à la colère et à la violence et comment on peut gérer ça en société, que ça soit chez soi ou dans le monde pro.
J'étais avec des copains il n'y a pas longtemps et on parlait de Virginie Despentes. Moi, c'est une autrice dont je me réclame beaucoup, même si j'ai des choses à lui reprocher. Et parce que justement, elle a ce côté, en tout cas dans ses premiers livres, de pas s'excuser d'être violente, de pas s'excuser d'être en colère, de pas s'excuser d'être une mauvaise femme. Parce que à partir du moment, en tout cas, enfin, moi voilà, dans mon rapport à la féminité, c'est comme ça que je me positionne. Je me positionne pas comme une personne transmasculine ou quoi, je me positionne comme une femme ratée. C'est vraiment comme ça que je me positionne dans la société. Et il y a plein de choses qui participent à ce statut, et notamment cette acceptation de la violence, ce refus de la douceur, ce refus d'être dans le care, d'être dans l'émotionnel, d'être dans le... Alors que pourtant, c'est quelque chose, on me dit, qu'on peut retrouver dans mon travail des fois, mais il y a globalement dans ma personnalité et dans ce que j'essaye de dégager un refus d'être... Enfin, j'ai plus envie de m'excuser d'être en colère.
C'est super intéressant, je pense que c'est ça vraiment le fait, la violence qu'on subit en tant que minorité et comment se réapproprier en fait la colère, la violence, etc. C'est vrai que moi, tout mon type de dessin, c'est sur du care, c'est des trucs très mignons, très choupis, tout ça et tout. Mais en dehors de ça, en fait, à chaque fois que j'ai essayé d'être, quand j'ai fait des posts où j'étais en colère, quand j'ai manifesté de la colère de façon militante, ou enfin globalement c'est forcément de façon militante puisque c'est sur le par rapport au handicap, par rapport à la queerness, par rapport à beaucoup de choses, par rapport au sexisme. Premier truc, j'ai été en colère quasiment toute ma vie. Je suis féministe depuis des années, depuis tout petit en fait, puisque c'est ma mère qui était féministe aussi. Donc je suis en colère depuis des années, mais il y a eu toujours ce « à partir du moment où tu es en colère, tu n'es pas entendable ». Et je me suis fait souvent reprocher, tout le temps, se faire reprocher d'être en colère. Que ça soit avant que je transitionne, ou que ce soit après que je transitionne. Parce qu'en plus, maintenant, il y a le soupçon de, comme j'ai transitionné et que maintenant je suis un homme, si je suis en colère, je suis misogyne. Je suis un oppresseur, etc. Donc c'est vrai que la question de se réapproprier la colère, elle est extrêmement intéressante. Et je pense que ça nous suivra en fait tout le temps. Au cours de notre travail, peu importe ce qu'on crée, ça sera toujours là en fait.
Donc, en attendant que vous vienne une question, que puissiez-vous la formuler tranquillement, moi je voulais juste vous indiquer que par rapport à la question de ne pas pouvoir être entendable quand on est en colère, on a réalisé une interview de Taous Merakchi à propos de son livre Vénère, où il est tout à fait question de cette problématique et de plein de choses qui peuvent entrer en écho avec ce que racontent ici Laurier et Frick sur voilà, la respectabilité et la difficulté à faire entendre sa colère, à se la réapproprier, parce que c'est pas une émotion tout qui se vit de façon neutre dans cette société en fonction de où on se place dedans.
J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle parle d'arrêter de s'excuser d'être en colère. Parce que c'est vrai que en rapport avec cette interview avec Taous Merakchi notamment, et avec d'autres autrices, on parle beaucoup du fait que la femme en colère, c'est quelque chose qui est très mal vu, même du point de vue de l'autrice qui écrit sa colère, alors qu'elle est tout à fait légitime. Et je trouve ça assez intéressant de s'autoriser à être en colère, de s'autoriser à arrêter d'être dans la douceur comme on vient d'entendre dans cet extrait.
Du coup, ça va être personnel comme réflexion, mais moi, je peux être très en colère et en même temps, je peux être parfois super douce. J'ai vraiment les deux personnalités extrêmes, quoi. Et je me dis qu'en même temps, j'existe. Donc, du coup, je pense qu'on peut... Les deux peuvent exister dans un même corps, quoi. Mais, moi, j'aime pas trop... je trouve ça un peu dommage de confronter les deux, quoi. Enfin, moi, je trouve que la colère, elle est super importante et que des fois, ça, c'est... Enfin, en fait, tant pis, on est... Enfin, même en tant que femme, évidemment, c'est hyper... C'est gênant et c'est bizarre d'être en colère, quoi. C'est gênant. Enfin, c'est ça... C'est pas un truc qui est... on se sent tout de suite folle ou quoi quand on est en colère. Il y a un truc qui déconne, quoi. Enfin, une femme qui est en colère, ça dissonne, quoi. Mais en même temps, moi, je trouverais ça dommage aussi de pas pouvoir non plus exprimer de la douceur ou du care, etc. Parce que, enfin, pour moi, c'est avec ça aussi que, enfin, je sais pas, ça existe quoi. Dans,
bah, là, je pense que bon, Laurier et Frick seront tout à fait l'occasion de dire non, tu dis de la merde. Mais en tout cas, moi, je l'ai reçu dans un truc de bon, on a marre d'être ramené à ça, d'être dans l'injonction à ça. Laurier le dit, lui, dans son travail, il y a de la douceur, il y a du care, etc. Mais je pense que d'un point de vue militant et peut-être aussi professionnel, il a envie de se dire bon, j'excuse cette possibilité pour qu'on ne puisse plus m'y assigner. Et c'est pas tant un choix définitif dans la vie qu'une stratégie de survie, en fin de compte.
Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est une stratégie juste politique ou c'est une stratégie aussi personnelle et...
Bah là, je vais pas m'exprimer pour elle, parce que ça serait vraiment trop déplacé. Ouais, ouais. Mais en tout cas, moi, je vois les espaces et les relations où j'aime me dire, bon, dans un monde parfait, j'aimerais pouvoir être dans la transparence, la souplesse, pouvoir explorer toute la palette des émotions. Mais je sens que si je fais ça, je vais me faire bouffer. Donc, par pure stratégie, je vais me limiter à mordre, aboyer, crier, taper, quoi.
Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'en étant parfois super douce et simplement dans une espèce de naïveté et de choses, et de vraiment douceur, quoi, douceur naïve, eh ben, j'ai l'impression que les gens, ils sont aussi surpris que quand je suis très énervée, parce que je pense que je, dans ces cas-là, je passe pour quelqu'un de trop gentil, d'un peu farfelu, de... Enfin, je sens que ça déroute aussi, quoi, quand je suis vraiment juste dans... Ouais, dans bah, ce truc de...
Bah, d'ouverture et de cynisme où ça peut désarçonner.
Bah, en fait, c'est pas du cynisme, quoi.
Quand non, je veux dire, le niveau global.
Bah, peut-être.
Tellement cynique bah, que même la douceur peut désarçonner, quoi.
Bah, je pense qu'il y a un peu un truc comme ça, ouais. Je sais pas, mais. Ouais.
Mais en tout cas, si je me positionne là pour les autoristes qu'on a écoutés, je peux comprendre qu'il y ait l'envie, en fait, de se dire dans mes récits, je veux plus passer du temps à m'excuser, je veux plus passer du temps à polisser, etc. Je veux rentrer dans le tas direct et ne. Enfin, voilà, gagner du temps et de l'énergie pour aller à l'essentiel sans se soucier d'être politiquement correct, quoi.
Mm-hmm. Bah oui, oui. Bah oui, mais c'est sûr que. Enfin, moi, je me demande souvent si j'étais un mec, quand je suis énervée ou quand je suis un peu véhémente et tout, je culpabiliserais autant, quoi. Souvent, je me le demande. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'être énervée, c'est 60% de mon mood, quoi, dans la vie, tout le temps. Parce que tout est parce super énervé,
oui,
quoi.
Oui, c'est ça. Les choses qu'on vit actuellement, il y a de quoi être énervée. Hein.
Bah, de ouf, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais justement, je trouve qu'aussi, c'est peut-être pas... être énervé, moi, c'est... En fait, j'ai l'impression que si je suis énervée tout le temps, à la fin, juste, j'ai envie de me suicider, quoi. Du coup, je crois que des fois, il faut que j'accepte, c'est horrible, mais un peu le monde tel qu'il est ou quoi, pour redescendre et pas avoir envie de tuer tout le monde. Et du coup, je sais pas, je mets ça un peu de côté et des fois, je me dis non, il faut arrêter de lire que des trucs militants, de lire que des trucs féministes et tout, parce qu'après, sinon, moi, ouais, j'ai envie de tout cramer, quoi. Et donc, c'est bien. Enfin, je veux dire, on a besoin de ça. Mais en fait, c'est pas toujours très vivable, quoi.
Bah oui, carrément. Mais ce que tu dis, ça me fait trop penser à ce que peut raconter Marie Da Silva, qui est l'autrice de Survivre au taf, et qui avait donné à Dangereuse Lectrice, donc c'était pas cette année, c'était l'année précédente, donc en 2023, une conférence qui s'appelait Transgresser la colère, et qui parlait que, voilà... Effectivement, la colère, à un moment donné, si c'est pas dirigé au bon endroit et que ça se retourne contre toi, c'est pas ouf. Si t'as envie de crever, c'est qu'a priori, la colère, elle est pas dirigée vers la bonne personne. Mais que pour autant, je suis en train de retrouver mes notes et il y avait cette phrase là qu'elle a dit.
Tu retrouves tes notes en direct, c'est incroyable.
Ouais, t'as vu.
L'organisation.
Lutter, c'est être debout quand on nous veut coucher ou mort, et c'est ça que permet la colère. Lutter et être debout. Elle est très forte en punchline, Maïda Silva.
Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, des fois, j'ai l'impression que quand je suis en colère, je suis plutôt le dos courbé et puis je suis là en mode. Et puis je sais pas, je.
Bah oui, enfin, c'est bon. Ça. Non, mais en même temps. Tout l'enjeu, c'est comment on fait pour que la colère devienne un moyen de rendre possible le soin, la défense, la résurrection et pas un endroit d'auto. Pas de destruction, mais j'ai l'impression que c'est plus d'autophagie, quoi.
Ce qui est hyper intéressant dans l'extrait aussi, c'est peut-être ça qui me parlait le plus, c'est que. En fait, elle parle du fait d'arrêter de s'excuser d'être en colère. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette image de... il ne faut pas forcément être en colère en permanence, mais que la colère, effectivement, bah, comme tu disais, Ingrid, ça arrive et ça fait partie de la vie aussi. Il n'y a pas besoin d'opposer colère et douceur. Enfin, les deux sont liés. Et que l'enjeu, c'est peut-être plus de pas d'arrêter d'être en colère, mais de se dire que bah, quand ça arrive, c'est normal et qu'il faut que... Enfin, de rendre un peu légitime cette émotion aussi, quoi.
effacez dans vos mails tous les « excuse-moi, mais peux-tu arrêter d'être un connard ?» et juste arrêtez-vous à la phrase impérative et ça ira très bien.
Après, je trouve que la colère, c'est aussi un sentiment qui met mal à l'aise beaucoup de gens. Même dans des cercles amicaux ou dans plein de cercles de... Enfin, dans la vie, quoi. Je sais pas, nos amis, notre famille ou quoi. Enfin, moi, j'ai toujours entendu ce truc de « ah, bah, c'est une personne qui aime pas le conflit, c'est une personne qui est mal à l'aise avec le conflit. » Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un type un peu psychologique de personne comme ça. Enfin, on m'a toujours sorti ça, quoi. Ah oui, c'est quelqu'un qui aime pas ça, le conflit, mais... Et du coup...
Bon courage pour avancer dans la vie, hein. Ça va pas être facile, hein.
Bah oui, mais... voilà, c'est... Je sais pas dans quoi qu'est-ce que je voulais dire, mais... Bref, il y a aussi ce côté-là, quoi, aussi. Des gens qu'on aime, bah des fois, on a l'impression qu'ils acceptent pas ça aussi chez nous, quoi. Ce côté-là... Enfin, juste aussi... Enfin, non, je veux dire que ça... que c'est en lien aussi avec communiquer et pouvoir discuter et aussi exprimer des choses qui sont pas toujours agréables, en fait. Et même avec nos amis, avec notre famille ou quoi, et que, en fait, ça fait partie aussi du dialogue, quoi, de parfois être énervé sur des choses et sans que ce soit un drame, quoi, en fait. Mais là, c'est aussi politique, en fait, parce que... Ouais.
Bah, si, si. Hein. Si, si, et puis, de toute façon, je pense que ces auteurices... Pour le coup, il y a aussi la nature de ce qu'ils ont raconté qui font qu'ils sont forcément catégorisés comme forcément un discours qui est moins lisse. Parce que de fait, les vécus, les témoignages, les histoires mises en scène ne sont pas celles qui sont communément admises, en fait. Et du coup, il y a déjà une première... c'est quoi le terme ? Subversion à faire exister ces récits-là. Genre, je veux dire, le simple fait d'être trans, d'être handy, d'être fou, etc., c'est une subversion, en fait. T'es dans la rébellion en existant, tout simplement. Mmh. Et t'as pas choisi ce combat-là, mais pour autant, tu vas le vivre. Mmh. Donc forcément, devoir faire exister des récits qui vont avec ces vécus, ça implique du coup déjà d'être de facto entré dans un certain combat, et du coup, du conflit, et du coup, de la violence. Et du coup, je comprends aussi cette envie de dire « Eh, c'est bon, on va arrêter s'excuser d'exister, en fait. On va juste faire... » Et d'ailleurs, il y a des choses hyper intéressantes qui vont venir. C'est une très bonne transition. Donc, je vous propose d'écouter la musique pour prolonger la discussion avec la dernière et troisième partie. Alors, avant de lancer le morceau, je voulais vous citer le refrain. Enfin, le refrain. Une partie des paroles. « Glass ceiling feeling got me feeling like a fool. Stuck in the master house with the master's tools. » On écoute « Glass feeling » de Lady Parr.
Maybe we're just actually shit.
No, you know we're fucking great.
But we didn't pray this morning
or even yesterday.
Maybe we're a novelty act,
but token black and brown.
Please shut up, I've had enough of you putting us down. Supercalifragilisticexpialidocious, sexist, xenophobic. Is it us or is it them? Why they tryna own us? Supercalifragilisticexpialidocious.
Vous venez d'écouter Glass Ceiling Feeling de Lady Part. Vous êtes sur J'ai craché sur vos ondes, diffusé sur Radio Syllabe. Ce soir, on se partage un entretien croisé de Laurier the Fox et Frix. Donc Glass Ceiling Feeling, quelques mots sur cette chanson qui vient du coup de la série qui prend le nom de ce groupe, Lady Parts, cinq femmes musulmanes qui vont se retrouver pour faire du punk rock pop. Enfin, c'est la dénomination genrée de moi par niveau musique, je m'y connais bof. Mais en tout cas, cette chanson cite du coup les mots d'Audre Lorde qu'elle a utilisé lors d'une conférence donnée en 79 à New York à propos du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, où elle explique que justement les outils du maître ne pourront pas défaire la maison du maître. Donc elle parle ainsi du coup de l'impossibilité à par exemple détruire le capitalisme en faisant des actions en bourse. Voilà, un long blabla pour expliquer la position de cette musique ici. On s'écoute tout de suite le dernier extrait de cet entretien croisé avec Frix et Laurier, où il est question un peu de la position des autoristes minorisés et la violence à exister dans le milieu pro.
Ça par contre, on en a parlé dans la voiture.
Ouais, ça on en a beaucoup parlé. On va dire que l'année dernière, j'ai eu une expérience de dédicace. On a eu une expérience de dédicace, je pense que je peux dire, qui s'est extrêmement mal passée et dans laquelle j'ai mangé en pleine face la désillusion qui est que le monde de la bande dessinée, et a fortiori le monde de la bande dessinée française, c'est un énorme boys club. C'est fait par des dominants, pour des dominants, qui vont se serrer les coudes et qui vont tout faire pour éjecter de la manière la plus violente possible les minorisés, et surtout les minorisés qui ont l'audace de venir sur leur espace pour parler de violence et pour parler du fait que ces minorisés sont en colère contre eux spécifiquement. On a vécu cette expérience très négative, où moi, vraiment, j'ai vraiment eu la sensation d'être humiliée pour me dire « Ah, tu vois cet espace, il ne t'appartient pas, il ne t'appartiendra jamais. Il est à nous et il le sera toujours. » Personnellement, j'ai pris une année de pause. Là, pendant cette année, j'ai beaucoup réfléchi au concept de respectabilité et au concept d'acceptation. Et je commence un petit peu à en avoir marre d'essayer de me faire une place au milieu de gens qui passent leur temps à me cracher à la gueule. Je suis beaucoup plus confortable finalement dans l'auto-édition, dans un milieu où je suis libre de créer ce que je peux et ce que je veux, et dans un milieu où, puisque je crée mon propre espace et puisque je crée ma propre sous-culture, je sais que je vais pas être censurée, je sais que ma colère ne va pas être tue. Souvent, il y a des jeunes minorisés qui viennent nous voir en dédicace et qui nous demandent des conseils, et je sais jamais trop quoi répondre. Et là, en fait, en y pensant, je pense que c'est ça. Je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est oui, ça peut être très séduisant de vouloir essayer à tout prix de plaire aux dominants, mais c'est un piège dans lequel il faut peut-être essayer d'éviter de tomber et plutôt essayer de chercher les espaces minoritaires avec un petit peu moins de visibilité, mais dans lesquels vous pourrez exister plus confortablement et avec peut-être des connexions humaines plus sincères.
Plus mille. Actuellement, le monde de l'édition française, et même, je dirais actuellement, mais depuis 50 ans, hein, on va pas se le cacher, est complètement hostile aux personnes queer. Donc globalement, toutes les personnes minorisées qui sortent, qui sont dans les marges des pages. En fait, on a l'impression que ça s'arrange parce qu'il y a des BD queer qui sortent, des BD féministes, tout ça. La majorité du temps, surtout par rapport aux personnes trans, c'est souvent fait par des personnes qui ne sont pas concernées. On parle de nous sans nous. Et en plus, avec toujours la même histoire depuis 50 ans, c'est-à-dire « Oh, vous êtes tellement courageux, vous êtes tellement brave, avec beaucoup de pathos, tout ça et tout. » Donc finalement, quand nous, on arrive avec nos projets, où on parle de nous, on parle de nos luttes, on parle de nos vies, c'est extrêmement difficile, c'est inentendable pour les maisons d'édition qui disent clairement que la ménagère, elle va pas vouloir écouter ça. Hein, et que non, si on veut que nos histoires soient entendues, il faut qu'on fasse pitié. Et ensuite, il va pas tabler sur des personnes qui sont concernées et qui connaissent extrêmement bien le sujet. Exactement comme les films, hein, qui prennent toujours les mêmes acteurs parce qu'ils savent que ça va se vendre super bien. Bah là, c'est exactement pareil, le milieu de la BD. Ils vont prendre leur poulain et ils vont mettre plus ou moins une caution dedans. Mais globalement, ça va être leur poulain qui va parler d'un sujet qui ne le concerne pas. Mais du coup, après, ils vont se féliciter. Regardez, on est tellement, mais tellement queer-friendly.
Pour moi, humour et violence sont très liés l'un à l'autre parce que t'as ce côté cathartique dans les deux. J'ai l'impression que rien sur nous sans nous, c'est aussi là-dessus et sur le fait que on s'autorise pas à être drôle. Quand je pense à mon vécu de la queeritude, je pense à des situations qui sont aussi extrêmement drôles, comme le fait de devoir mettre des lunettes de soudure pour faire l'épilation laser de ta meuf à quatre pattes à 3h du matin en écoutant du punk à fond. Et pour moi, c'est des situations comme ça qui respirent la vie queer, qui respirent la vie folle, qui respirent la vie handicapée. Et c'est aussi des situations qu'on ne nous laisse pas exploiter, au même titre que la violence. En fait, on n'a pas le droit d'exprimer une position qui soit autre que victimaire. Et c'est vraiment une case qui se ressent comme une cage, quoi.
En dehors du fait d'être queer, minorisé, tout ça, rien qu'en tant qu'auteur BD de base, sur une BD, en général, disons une BD de 15 balles, on gagne 80 centimes par bande dessinée. On est extrêmement précaire, alors que l'industrie de la bande dessinée fait des millions de bénéfices par an. Bah, ça fait l'écrémage, hein, quoi, parce que rien que quand on est une autrice dans la bande dessinée, on gagne moins qu'en étant un auteur. Rien que ça. Donc après, je te laisse imaginer, quand on est minorisé, queer, handi, tout ce que tu veux, on est encore plus bas sur l'échelle.
Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure de... En tout cas, personnellement, c'est la position que j'ai eue après cette année de sabbatique que j'ai prise, ou de ras-le-bol, en fait, vis-à-vis de ce petit milieu bourgeois très parisien centré,
très blanc,
très hétéro, enfin...
Très mec.
Bref, on se sait. J'ai plus envie d'essayer de plaire à ces gens. Si je devais... regarder les années les plus heureuses entre guillemets de ma vie d'auteur, je pense que ce serait celle où j'avais un boulot alimentaire qui m'apportait un confort financier et où à côté, ben, ce que je le produisais gratuitement. Je sais que c'est pas une position qui est très entendable par mes collègues, mais c'est la mienne. Plus le temps passe et plus j'ai envie de décorréler ma production artistique du capitalisme et d'essayer de trouver d'autres manières de vivre que par mon art, parce que c'est extrêmement mortifère.
Et je crois, Ingrid, que tu avais une citation que tu voulais partager à nos auditeurs et auditrices en lien avec ce qu'on vient d'écouter.
Oui, alors c'est une citation qui est dans l'ouvrage « Penser avec le punk » de Catherine Guest, mais en fait c'est un ouvrage collectif avec plusieurs articles, je pense, de plusieurs auteurs, chercheurs, je pense. Donc la citation c'est « Le punk peut être un excellent vaccin contre le statu quo oppressif de la société. Dans sa meilleure version, il nous fait nous sentir moins seuls et résister lorsque nous faisons face à une contradiction entre ce qu'on nous dit être normal et ce qui nous paraît juste. » Et j'ai l'impression que cette tension entre ce qu'on nous dit d'être normal et ce qui nous paraît juste, c'est un peu le cœur de ce qui peut être énervant parfois et ce qui peut nous faire sentir un peu seul et un peu seul dans nos ressentis, quoi.
Est-ce que Clara, toi, t'avais quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on vient d'entendre ou sur la citation d'Ingrid?
Alors sur la citation, pas tellement. Par contre, sur la fin de l'extrait, la personne parle du fait que les autrices de BD sont moins payées que les auteurs de BD.
Ouais.
Alors, je suis à la fois étonnée et à la fois pas tellement.
Oui, les conséquences du sexisme ne sont pas étonnantes, mais ça faisait partie des revendications du collectif MeToo BD, hein, la revalorisation des salaires des travailleuses sexisées dans le monde de la bande dessinée. Et enfin, on voit les mêmes problématiques sur tout ce qui va être classement, on va dire hiérarchie des genres, en fait. Par exemple, bizarrement, c'est plus facile de négocier des contrats avantageux pour du roman plutôt que pour de l'illustration jeunesse. Donc c'est des choses qui malheureusement sont pas étonnantes mais qui perdurent.
Et oui, non mais moi rien à voir, en fait je pense à l'extrait aussi. Et il y avait un moment que j'ai trouvé super intéressant où donc c'est Frix, je crois, qui dit que elle aimerait bien plus pouvoir raconter sa vie, la vie queer dans ce qu'elle a de rigolote, quoi, dans ce qu'elle a de, enfin ouais, la vivante, quoi, et notamment qu'elle met des lunettes de soudure pour épiler sa copine. Enfin, ça, j'ai trouvé ça trop marrant. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, j'aimerais trop lire plus de, c'est vrai, de genre de récits comme ça aussi. Et du coup, je sais pas si c'est un peu l'industrie éditoriale qui favorise. Enfin, en fait, j'ai l'impression que les ouvrages un peu sur les ouvrages queer, les ouvrages qui parlent de vie queer, etc. En ce moment, elles sont très didactiques et en fait,
ou misérabilistes.
Et je trouve ça cool pour le côté didactique et en même temps j'ai l'impression que c'est les personnes qui sont déjà concernées qui vont les lire, donc il y a un petit côté un peu on se mord la queue quoi, enfin le serpent qui se mord la queue. Enfin,
on fait un bisou à toutes les œuvres sur la masculinité qui sont lues par les meufs qui vont ensuite essayer de dire à leurs copains ça serait bien que tu regardes.
Mais enfin un peu un truc, c'était pas l'expression qu'il fallait utiliser, mais un peu un truc où on parle aux mêmes personnes, enfin. Et moi, des fois, j'ai l'impression que je lis des leçons et j'avoue que même si... Enfin, voilà, c'est des récits qui me parlent. Des fois, j'ai l'impression qu'on me fait des leçons et ça peut m'énerver parfois. Alors que je sais que si je lis des histoires, en fait, vécues de personnes queer, LGBTQI, etc., et que je suis vraiment avec elles et dans leur vie, dans leur life, dans leur bail de personnes queer, quoi, et je suis vachement, je sais pas, ça me...
T'as de l'empathie.
J'ai de l'empathie, et puis, je sais pas, je découvre un monde aussi... c'est tout le truc de la littérature, quoi. Et en fait, du coup, je me demande si c'est... peut-être, potentiellement, ce serait plus une histoire aussi de... En fait, on va financer des projets qui sont plutôt... comme tu disais, misérabiliste ou didactique, plutôt que financer des projets qui sont plus littéraires, quoi, plus...
Enfin, c'est plus que... Par exemple, tu vois, Sous la ceinture, c'est pas misérabiliste, c'est pas trop didactique, et pour connaître un peu les coulisses de cette bande dessinée, pour laquelle j'ai fait une préface, c'est une bande dessinée qui a été refusée dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de maisons d'édition, parce que, le projet est super, mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche en ce moment. Et c'était un autre sujet qui était abordé cette fois-ci pendant l'édition de 2024 de Dangereuses Lectrices à la table ronde sur Éditer les luttes avec Juliette Rousseau et, j'oublie toujours son nom, c'est très nul, mais la personne qui est derrière la maison édition Fière. Et elles ont débattu...
Marine Perrard ?
C'est ça, tout à fait. Et du coup, l'un des grands sujets qui était abordé, c'était on en fait quoi de ces maisons d'édition qui éditent... par exemple, il y a eu une grosse vague pour des récits féministes et des livres féministes après Me Too, mais qui n'étaient pas si subversifs que ça et qui en fait étaient plus là pour faire on répond au marché, c'est trendy et tout. Et pour autant, ça reste des maisons d'édition où il y a des violences compliquées, où on va éditer des auteurs compliqués également. C'est vraiment comment dans le capitalisme tu fais pour exister éthiquement, c'est pas facile. Il y a un exemple récent qui s'est produit lors du FIBD, il y a Jules Marot qui a pris la parole sur son compte Instagram et qui a fait une petite publication dont je vous lis deux slides pour dénoncer du travail gratuit organisé en plein festival international de la bande dessinée à Angoulême. Donc la deuxième slide disait « Une dizaine de jours avant l'ouverture du FIBD d'Angoulême, une des maisons d'édition avec laquelle je travaille m'a transmise une proposition du journal local La Charente Libre. » Plusieurs artistes de cette maison, dont moi, étions invités à dessiner les unes et les cahiers intérieurs du journal qui seraient publiés pendant le festival, chaque thème de une étant choisi par le journal. Sauf que le travail demandé n'est pas rémunéré. Aucun contrat n'est d'ailleurs signé quant à l'exploitation des œuvres réalisées. Et j'ai appris que ça durait comme ça depuis plusieurs années. Slide numéro 8. Quand j'ai demandé ce qui se passerait si les dessinateuristes invités se désistaient, on m'a répondu « C'est le dessinateur de la Charente Libre qui fera le job, rémunéré pour sa pige, bien sûr. Cela démontre que non seulement il y a de la thune, et que si nous acceptons de travailler gratos, nous privons d'autres artistes de leur rémunération habituelle. » Fin de citation, les liens seront dans la description du podcast, comme d'habitude. Donc ça aussi, la violence économique, on peut en parler.
Je trouve ça dingue, parce que du coup, le côté faire travailler bénévolement des personnes ne me surprend pas tellement, malheureusement. Mais le fait qu'il y ait des personnes qui aient ce travail et qui... Enfin, en gros, soit l'artiste le fait bénévolement, soit une autre personne sera payée pour le faire. Je trouve ça assez fou comme fonctionnement.
Oui, non, c'est assez choquant. Ça veut dire quand même que tu demandes du travail bénévole à des personnes qui sont déjà relativement précarisées. Le pourcentage d'auteuristes de BD qui vivent leur vie grâce à leurs revenus, il est très bas. J'ai pas les chiffres en tête parce que je suis pas allée les chercher. Mais on est très loin en dessous des 50% en fin de compte.
On en avait déjà parlé dans une ancienne émission justement, et c'est ce qui était dit là dans l'interview, c'est 80 centimes par bande dessinée que...
C'est ça, c'est le chiffre que donnait Laurier.
C'est ça, donc ça, j'imagine que c'est pas les mêmes chiffres pour tous les auteurs et toutes les autrices, mais ça reste relativement bas quand même.
Là, pour reconnaître, c'est un livre qui est vendu 22 euros. Donc 80 centimes sur 22 euros, tu récupères pas grand-chose. Il faut rappeler que ces 80 centimes qui sont pas reversés directement à l'auteur, c'est-à-dire qu'il y a toute une période où l'auteur va d'abord gagner, ou enfin, il a reçu en gros un prévaloir, ou enfin, en tout cas, il a reçu une somme le temps que la bande dessinée soit produite. Et donc, tant que cette somme donnée par l'éditeur n'a pas été remboursée à hauteur de 80 centimes par exemplaire vendu, bah, l'auteur ne touchera pas de sous, en fait. Il ne fait que rembourser son éditeur qui a pris un risque en l'éditant. Si vous voulez, avant qu'on clôture cette émission, j'avais une dernière actu à vous signaler. Il y a eu une action en ligne montée il n'y a pas longtemps, la veille du lancement du festival FIBD, et oui, encore lui. Sur l'Instagram de MeTooBD, nous pouvions lire « Nous, éditeuristes indépendantes, auteuristes et autres professionnels du monde de la BD, nous réclamons le départ de Franck Bondou, délégué général du Festival international de la bande dessinée. » Le MeTooBD listait alors de nombreux griefs concernant par exemple la transparence économique du fonctionnement du festival, l'appauvrissement de la programmation, notamment des expositions, et terminait en citant l'enquête de Lucie Servin, publiée initialement dans L'Humanité, puis reprise dans bien d'autres médias, qui du coup étayait le cas d'une victime qui aurait été violée par un prestataire du festival. Et la gestion du festival, et donc de Franck Bondou, de cette affaire, a été simplement de virer la salariée pour faute grave. MeTooBD poursuivait ainsi. Nous nous mobilisons pour apporter notre soutien à la victime. Franck Bondou et le 9e Art Plus, ça suffit. Ce festival que nous aimons tant mérite un appel d'offres public en bonne et due forme pour que d'autres projets et d'autres visions, d'autres partenaires plus intègres, plus respectueux et plus compétents puissent nous redonner l'envie d'aimer Angoulême. Nous voulons travailler ensemble et valoriser ce qui nous réunit tous et toutes à Angoulême, la bande dessinée. Voilà. Si vous n'avez rien à ajouter, je vous propose d'écouter le dernier choix musical de Laurier the Fox, qui me paraît fort à propos. Nous écouterons donc Dead Men Don't Rape de Delilah.
Dead Men Don't Rape! Dead Men Don't Rape! Belong to the government. This is my body. It's mine to decide what the fuck I can do with it. This is my body. My right to decide is my right to my freedom. This is my body. Yeah, yeah. Not just a body. Yeah. Oh. Deciding to walk, creating a scene. My body is not just a playground. For men with the guns, religion and greed. They're taking our freedom to breathe now. It's freedom to choose. It's taken away. How many more babies will die now? How many women will die?
Politics out of my uterus and your hands off my butt. Extend the time, people are people, they are.
Merci à Laurier The Fox de nous avoir recommandé d'écouter Dead Men Don't Rape de Delilah sur les ondes de J'irai cracher. C'est déjà la fin. Je vous rappelle qu'au Laurier The Fox, vous pouvez le retrouver derrière l'ouvrage Reconnaître Trans, J'ai un, une amie trans et ou non binaire, Le genre, cet obscur objet du désordre, et enfin, Je m'appelle Julie. Allez voir ça, allez checker son travail d'illustrateur pour de la bousseur, du care et des paillettes sur son compte Instagram. Les liens seront en description du podcast. Et concernant Frix, elle a annoncé le 29 janvier son retrait du monde pro de la BD, mais ça ne nous empêche pas d'aller lire ses bandes dessinées déjà publiées et peut-être aussi d'aller peut-être jeter un œil à son Patreon, plateforme où vous pouvez du coup la soutenir en achetant ses planches originales, du merch, mais aussi des zines. Je vous recommande tout particulièrement Inadapté, une folle histoire de l'antipsychiatrie. Pour 15 euros, c'est pas mal pour se faire une petite culture. Et donc, nous, on vous dit une très bonne soirée. Et pour celles et ceux qui écouteront ça le 8 mars, une bonne journée de lutte. Salut !